Bienvenue à Un Geek et ses histoires. Et l'histoire du jour est...
Au bon vieux temps.
Joseph est assis sur son grand divan. Il est dans son salon rempli de tous les objets qu'il a collectés au fil de sa vie. Des tableaux qui montrent l'Afrique coloniale, un buste de Staline, son épée de son service militaire. Sa vieille radio fonctionne encore. Il écoute de la musique classique. Dans quelques minutes, ses enfants et petits-enfants vont arriver. « Quelle vie j'ai eue !» se dit-il. « Si seulement il était possible de remonter dans le temps. » Son téléphone sonne et il se bat pour réussir à répondre. Glisser ses doigts sur un écran tactile n'est pas si simple avec son arthrose. Malgré tout, il réussit. D'impatience, il crie « Allô ?»« Allô, Joseph ?» répond une voix onduleuse. « Oui, c'est bien moi. C'est moi, Mano. » Mano, sa silhouette, apparaît devant lui. Elle était la fille la plus belle de l'université. Ils s'étaient embrassés. Joseph lui avait déclaré son amour et sa fidélité éternelle. Il lui avait écrit tout cela dans des lettres. Il lui avait récité cela dans ses poèmes. Quand il l'a vue, il a compris l'intention de Dieu. C'était la première fois que sa vie faisait sens, que tout était clair. Avant de l'avoir rencontré, les poèmes n'avaient aucun sens pour lui. « Joseph, tu es là ? Allô ? Oui, oui, pardon. Tu te souviens de moi ? Oui, Mano. Est-ce qu'on pourrait se voir comme au beau vieux temps ? » Il devrait refuser. Tant de temps est passé depuis leur dernière rencontre. Elle n'a plus rien à faire dans sa vie. Il s'est fait une vie sans elle, une famille sans elle. Elle ne lui avait apporté que du malheur. Elle l'avait toujours utilisé. Il devrait dire non. Il le sait. Toute sa raison le lui rappelle. Mais quelque chose en lui répond à sa place. Oui, Mano, avec plaisir. Ils choisissent une date. Elle viendra dans l'après-midi, accompagnée de son petit-fils. « À qui tu parlais, papa ?» demande son fils entré dans son bureau. Joseph hésite. Il est revenu à son adolescence. Il perd tous ses moyens. Mano a encore cet effet sur lui. Il en perd qui il est. Il ne sait plus distinguer sa gauche de sa droite. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Joseph lève ses yeux vers son fils qui est aussi entré. « J'ai reçu un appel. Mais papa, de qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Son fils, Jérémy, est policier. Joseph sait qu'il ne pourra pas fuir ses interrogations. Il est trop vieux pour résister. Il lui explique qui est Mano. « Je vais voir ce que je peux trouver sur elle, papa. »« Non, fiston. Papa, je m'occupe de toi. Fais-moi confiance. » Jérémy est efficace. Cela lui a pris beaucoup de temps. Juste un peu moins de 2 heures. « Papa, elle veut ton argent. »« Mais de quoi tu parles ? Elle est veuve d'un certain Jean Delanneau. » »« Jean Delanneau. » Joseph reconnaît le nom. C'était l'élément saboteur de sa relation avec Mano, déjà à l'époque. Mano l'aimait, Joseph le savait au profond de lui. Joseph pensait que la pureté de son amour ramènerait Mano à lui. Mais non, elle continuait de retourner chez Jean. Malgré toutes ses infidélités, malgré toutes ses indifférences, elle continuait de retourner à lui. Quand elle pleurait, c'était Joseph qui devait la réconforter. Jamais lui. Mais Joseph n'y arrivait jamais. L'adolescent était simplement heureux d'avoir Mano dans ses bras. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Joseph explique tout à son fils. Papa, écoute-moi bien, elle ne s'intéresse pas à toi, elle veut ton argent. Ce Jean a laissé tout un tas d'héritiers derrière lui et de tout un tas de femmes. Elle est ruinée. Elle tente de garder la vie de plaisir que ce Jean lui donnait. Lui, il avait une pension, mais pas elle. Elle n'a jamais travaillé. Ça ne m'étonne pas, dit Joseph en souriant. Elle aimait trop la vie. Papa, cette femme n'est pas de confiance. Elle a emprunté partout sans jamais rembourser. Des procès sont en cours contre elle. Oui, dit Joseph en souriant. Elle n'a jamais su réfléchir. « Papa, écoute-moi. Elle a une fille junkie irresponsable, un fils meurtrier, et le tribunal lui a donné la charge du fils de cette junkie. L'école a rapporté à la police qu'elle néglige cet enfant. » « Oui, elle a toujours été contre l'éducation, » dit Joseph, toujours en souriant. Et ainsi continue la conversation. Tout ce qui est raisonnable prouve que Joseph ne devrait pas la rencontrer. Mais n'est-ce pas cela qui la rend si unique ? Sa beauté, sa sensibilité n'a aucun égal. Elle est sa rose rien qu'à lui, la rose qu'il l'a apprivoisée, la rose unique pour lui. Dans les yeux des autres, elle n'est peut-être qu'une femme vaniteuse comme une millier d'autres. Mais c'est sa rose à lui, celle qu'il l'a apprivoisée, sa première rose. Oui, Joseph aime sa femme. Oui, Elle l'a aidé à élever des adultes responsables. Son fils Jérémy, par exemple, inspecteur en chef. Son fils Pierre, le notaire. Sa fille Donatienne, l'expert bancaire. Joseph n'aurait jamais su faire tout cela tout seul. Mais Manoël était sa rose. Son fils Jérémy ne pourrait pas comprendre cela. Papa, je vais en parler aux autres. Non, tu ne diras rien. Laisse-la venir à moi. Je veux la voir. Jérémy se calme. Joseph a réussi. Il sait que son fils n'a jamais suivi ses ordres, mais il abandonne cette pensée. Cette fois-ci, Jérémy l'écoutera. Il lui doit bien ça, après tout ce qu'il a fait pour lui. Fiston, je dois la voir au moins une fois avant de mourir. D'accord, mais promets-moi que tu nous appelleras si tu as besoin d'aide. Oui, je le ferai. Nous sommes là pour toi, papa, même si c'est pour aider cette femme, ajoute Jérémy. Une larme apparaît dans les yeux de Joseph. Il fait signe à son fils de s'approcher. Il serre son fils dans ses bras. Merci, fiston. Je n'aurais jamais pu m'imaginer avoir une si belle famille. Fast forward. Mano prend Joseph dans ses bras. Elle regarde dans ses yeux. Elle s'approche de lui. Il ressent son corps contre lui. Il ressent sa douceur. Il ressent la respiration de Mano contre sa bouche. Leurs corps entremêlés. Leurs bouches rapprochées. Leur respiration synchronisée. Joseph ferme ses yeux. Ça fait tellement longtemps que tu ne m'as plus embrassé comme ça, entend Joseph de la voix de sa femme. Il ouvre les yeux. Il est dans son lit. Il est avec sa femme. Ah, tu rêvais de cette Mano. Non, enfin, je veux dire, c'est que sa femme se retourne dans son lit. C'est demain qu'elle vient. Ne rêve pas trop. Elle a probablement bien vieilli. Non, attends, c'est juste que. Chut, Jojo, allons dormir. Plus facile à dire qu'à faire pour Joseph. Sa femme se tourne et l'enlace, elle l'embrasse dans son dos. Mon petit Jojo, dit-elle doucement. Elle a toujours su le calmer. Malgré lui, Joseph s'endort. Joseph rajeunit. Il devient à nouveau cet adolescent. Il est devant son armoire à vêtements. Il ne sait pas quoi porter. Il hésite, en choisit, il les enlève pour en mettre d'autres. Il veut se faire le plus beau possible, mais ne sait pas quel message il veut envoyer. C'est sa femme qui choisit pour lui. Finalement, quelque chose de très classique, une chemise bleue, sous son pull marron, cela passe partout, avec un pantalon bleu foncé. Il se regarde dans le miroir et il voit que sa femme a raison. Cet ensemble lui va très bien. J'ai trop de chance de t'avoir. Au moins tu le sais, Jojo. Joseph s'installe dans son divan. Il s'est fatigué dans cette quête vestimentaire. Il se demande ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Cela fait si longtemps. Doit-il être poli, familier? Devrait-il de la confronter, lui demander? Et la sonnette retentit. Il se positionne dans son chaise. Il doit se calmer. Il prend une posture de puissance. La posture le met en confiance. Je dois être accueillant. C'est comme dans la vie. Laisse-la parler d'abord, sans réagir. Tu peux le faire, Joseph. La porte s'ouvre. Une dame entre, des cheveux gris, des rides, des yeux gris, un rouge à lèvres trop présent, des joues trop poudrées, des vêtements vieux et usés qui attendent de mourir. Joseph connaît ce type de monstre. Ce sont des vieilles refusant leur âge et le corps dans lequel elles sont. La plupart se refont le visage. Ce monstre n'a même pas fait cet effort. Dans le visage de ce monstre, il croit reconnaître les contours de Mano. C'est lui, ton ami? Dit une voix remplie de vie. C'est la voix d'un garçon. Joseph ne l'a même pas vu entrer. Le garçon sourit. Quelle innocence, se dit Joseph. Tu ne sais pas ce qui t'attend. L'amour, les femmes, la responsabilité, la famille, le travail, les impôts. La vie te sera dure. Reste comme tu es aussi longtemps que tu peux, petit garçon. Le monstre tente d'amadouer Joseph. Il utilise des stratagèmes, des phrases, des tons de parole et d'autres comportements que le monstre a dû assimiler de la Mano qu'il a connue du passé. Le monstre parle du bon vieux temps, du présent, de sa souffrance, des regrets de ne pas avoir choisi Joseph. Jean ne lui a apporté que du malheur. Joseph ne l'aurait jamais traité comme ça. Jean l'a fait souffrir quand il vivait. Elle croyait que ce serait fini à sa mort. C'est pire. Le monstre prétend savoir à peine survivre et s'occuper de ce petit garçon. Il est l'enfant de sa fille. Sa fille est une droguée qui ne sait pas tenir une responsabilité. Joseph se dit qu'une droguée de ce genre est la seule chose que peut enfanter ce monstre devant lui. Waouh, c'est trop beau! Joseph se tourne vers le garçon. Le garçon admire son plateau d'échecs emboîtaillé. On peut jouer, monsieur? Joseph sourit. Cette vivacité, cette insouciance, cette curiosité, cette envie de vivre. Bien sûr, doit lui répondre Joseph. Joseph fait semblant d'écouter, le monstre parle d'héritage, de trahison, d'enfants éparpillés, de concubines. Joseph, lui, joue aux échecs avec ce garçon. Il montre beaucoup de vivacité et d'idées. Il a du potentiel, ce garçon, se dit Joseph. Il a assez de sagesse pour savoir qu'il se reconnaît dans ce garçon. Il se demande quelle relation il aurait eue avec lui si Mano l'avait choisi. Joseph, c'est dur, dit le monstre en interrompant les pensées de Joseph. Le monstre continue de se lamenter sur l'injustice du monde à son égard. Joseph retient assez de mots de son monologue pour participer passivement à ce que ce monstre pense être une conversation. Laisse le monsieur tranquille, dit le monstre. Il ne veut pas jouer aux échecs avec toi. Joseph fronce ses sourcils. Pourquoi est-ce que ce monstre doit tout déranger?
Pardon, monsieur. Merci d'avoir joué avec moi.
Le garçon aurait pu apprendre quelque chose. Le monstre l'en a empêché. Joseph regarde le monstre. Il croit reconnaître quelque chose dans les yeux gris. Une lueur qu'il ne reconnaissait pas dans sa jeunesse. Une lueur qu'il a eu l'occasion de reconnaître chez d'autres durant sa vie. La lueur du narcissisme. Une lueur qui bloque la vue. Tous ceux touchés par cette affliction ne voient rien autour d'eux. Rien d'autre n'existe que son malheur. Il le voit enfin clairement dans les yeux du monstre. Les souvenirs remontent en Joseph. Les souvenirs de Mano apparaissent devant lui. Il voit ses yeux quand elle était jeune. Ils ont toujours eu cette lueur. Joseph tente de refuser la pensée. Elle ne sera pas refusée à lui. Mano ne m'aurait donc jamais aimé? Non. Et donc Joseph interrompt le monstre à nouveau. Le monstre continue de parler. Joseph n'en peut plus. Cela doit s'arrêter. Il prend une grande inspiration. Calme-toi. Calme-toi, Joseph. Concentre-toi. Sors d'ici, sors de cette situation. Oui, Mano, j'ai de quoi t'aider, mais je suis vieux, je sais à peine marcher, je suis fatigué, j'ai besoin d'y réfléchir avec mes enfants. Joseph se lève, il ne dit pas au revoir, il quitte la salle, il marche vers sa chambre et il ouvre la porte.
Au revoir, monsieur, merci pour la partie,
entend-il derrière lui. Le monstre disait des choses, mais il ne les a pas écoutées. Il a préféré rejoindre son lit. La porte s'ouvre. Joseph ne sait plus combien de fois elle s'est ouverte. Elle annonce la même routine. Quelqu'un de sa famille qui entre. Un monologue qui tente de lui remonter le moral. Sa femme le connaît bien. Elle a assez de respect pour lui. Elle ne tente pas de lui remonter le moral. Elle lui apporte simplement de quoi se nourrir. Certains ont dit qu'il doit entraîner ses muscles. D'autres qu'il doit garder le moral. D'autres que sa vie vaut la peine d'être vécue. D'autres se demande ce qui a changé, mais aucun d'entre eux ne comprend que Joseph trouve son lit simplement très confortable, qu'il ne voit pas de raison d'en sortir, qu'il ne voit aucune raison de le quitter. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le laisser tranquille? La porte se referme, enfin un peu de calme. Il regarde l'horloge, plus que 2 heures avant le prochain repas, et il s'endort. La porte s'ouvre à nouveau, c'est sa femme, et elle n'a rien apporté. Je suis venu te dire que si tu ne vas pas faire d'efforts, je ne vais pas en faire non plus. La porte se referme. Aucun repas. C'était donc ça. Joseph sait ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle lui avait dit la première fois qu'il s'est montré ainsi. Elle a continué de le lui dire toute sa vie. C'est son pouvoir sur lui. Un pouvoir qu'il élève au-dessus de sa propre vision qu'il a de lui-même. Que ce soit pour remplir son devoir de père, étudier pour un examen ou finir ses impôts. Même s'il ne se sent pas capable de le faire, elle croit en lui. Il se souvient de cette première fois. Elle avait dit une phrase en plus qu'elle n'a jamais répétée. Elle n'a pas besoin de la répéter. Elle est gravée en lui. Elle résonne dans son esprit à chaque fois. Toi et tes drames ne sont pas le centre du monde, Jojo. Elle a raison. Il choisit de rester dans le lit, mais son corps veut autre chose. Il le force d'aller aux toilettes. Il sait qu'ils sont tous à la maison. Je dois être un exemple pour eux, pas une larve. Tu as raison, se dit Joseph, les pauvres. Ils doivent se dire que je vais mourir. Joseph se lève, il ne peut plus retenir ces choses. Il doit les évacuer. Sinon, elles pourriront et le tueront, lui et sa famille. Il sort du lit, il marche vers la porte, l'ouvre, va vers la toilette, l'ouvre et crie. Je dois vous parler. Il s'assied sur la toilette. Ses enfants arrivent. Je dois vous expliquer ce qu'il se passe en moi. J'ai l'impression que quelque chose est mort en moi. Quand j'ai vu cette femme, j'ai vu qu'elle était vieille et mortelle. Vous devez l'avoir vue, cette femme est un de ces monstres. Malgré son âge, elle tente encore de rester jeune. C'est plus important pour elle que son petit-fils et probablement tous les enfants qu'elle a eus. Dire que j'aimais un monstre pareil, dire que cette chose aurait pu être votre mère. Ce gamin, ce pauvre gamin, il est sympa, il n'est pas con, il a du potentiel. Mais avec un exemple comme elle, il n'aura aucune chance, il est perdu d'avance. Quand j'ai vu cette femme, j'ai compris que ma mort approche, que je serai bientôt jugé pour mon âme. Qu'est-ce que je dirais ? Qu'est-ce que je dirais pour ma défense, en ma défense ? Je ne sais pas, je sais que faire de mon argent, j'en ai trop, mais malgré ça, j'ai trop d'orgueil pour en donner à ce monstre. Je préfère qu'elle et cet enfant meurent de faim plutôt que de les aider. Vous vous rendez compte ? Je suis un être ignoble. Pourquoi est-ce que j'ai amassé tout ça? À quoi est-ce que ça aura servi? À quoi est-ce que j'ai servi? Pourquoi est-ce que j'ai été sur Terre? J'ai l'impression que j'ai passé ma vie à fuir ces questions. Que tout est trop tard maintenant. Que tout est fini. Que je ne peux plus rien faire. Sa famille répond. Aucune de leurs réponses ne fait sens. Leurs phrases sont vides. Ce sont des phrases comme « Tu nous as bien éduqués. Tu as accompli tant de choses. Tu as encore tant de choses à faire. Tu as encore tant de choses à voir. Tu peux encore faire tellement de choses. Souris. Pense à autre chose. » Comment penser à autre chose ? Se demande Joseph. C'est la seule chose à laquelle chaque humain devrait penser. Il est dans sa chambre. Il voit Anne, sa petite fille. Elle porte un grand sourire sur ses lèvres. « Je t'envie, » dit Joseph. « Je n'ai pas toujours été un vieux crouton, tu sais. J'ai été jeune et souriant comme toi. J'aimerais avoir ton âge à nouveau, juste retourner au bon vieux temps. » Merci d'avoir écouté ce geek et son histoire.